Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. On peut devenir mannequin par hasard, dans la minute, sans y avoir jamais pensé auparavant. Mannequin. Mannequin dans une maison de couture ou mannequin pour les photographes. Les deux, pour Bettina Graziani, célébrant la mode qui offre la possibilité de vous embellir, dans l'émission Mémoire du siècle, diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 août 1991.
Comme je ne travaille plus depuis quelques années, on pense que les gens qui ne me connaissent pas et qui ont une idée de moi, comme j'existe depuis longtemps, doivent me penser une vieille dame installée chez elle, dans son fauteuil. Et je ne vis pas du tout comme ça, alors je n'ai même pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de voyager, j'aime beaucoup mes amis, j'aime nager, j'aime aller au cinéma, j'aimerais aller au cinéma tous les jours, j'aime ma maison. J'adore les
amis. Elle est jolie, votre maison.
Elle est très jolie, mais je l'aime beaucoup. Je vis beaucoup dans ma maison. J'aime les animaux. J'aimerais en avoir plein, mais j'en ai plus du tout parce que c'est un tel esclavage. Et c'est peut-être j'ai une forme d'égoïsme qui s'installe en moi là en ce moment. Je suis en train de vivre beaucoup pour moi, seule, et j'ai pas le temps de vivre tout ce que j'ai envie de vivre.
Mémoire du siècle, Bettina, par Jane Gossett.
Bettina, c'est tout un art de vivre. Et c'est un œil sur la vie aussi. Un art de vivre, qu'est-ce que ça veut dire ? L'art de vivre, c'est une façon de vivre dans son époque, c'est-à-dire l'époque de toute une vie. Pas simplement, on n'est pas d'une époque, on traverse plusieurs époques. Et comment traverser ces époques ? En restant l'œil intéressé par tout ce qui se passe, et avec cette capacité de capter les énergies et les intérêts des nouvelles générations. Alors l'histoire de Bettina, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, Bettina, elle intéresse autant Alaïa qu'elle intéressait Jacques Fatt. Alors pourquoi ? Parce qu'elle intéresse les couturiers, mais elle n'intéresse pas que les couturiers en plus. Bon, elle est l'amie de nombreux artistes. C'est l'amie de beaucoup de monde, et elle représente, bien qu'elle soit venue d'Elbeuf, comme elle raconte, elle représente l'esprit parisien dans ce qu'il a de plus vivant et profond. Alors, bon, comment on peut raconter ça ? C'est pas très facile, mais on peut raconter le goût de la fête de Bettina, d'abord. Moi, je me souviens la première fois que Bettina m'a emmené dans une soirée. Un jour, comme ça, elle m'a dit « Tiens, accompagne-moi dans une soirée ». Alors, je l'ai accompagnée, c'était une soirée pour Saint-Laurent. Ben, c'était une chose extraordinaire, parce que d'abord, elle passait de table en table, elle connaissait tout le monde. Elle était merveilleusement élégante. Elle avait ce soir-là un smoking de Saint-Laurent avec une voilette, en plus. C'était mis une voilette. Bon. Elle traversait les salles de manière très joyeuse, comme ça, en saluant tout le monde, soit d'un signe de la main, soit en embrassant les jeunes femmes ou les gens qu'elle rencontrait. Et c'était très, à la fois naturel. On peut pas imaginer plus sophistiqué en même temps. Parce que c'était quand même ce qu'il y avait de plus beau et de plus élégant à Paris, c'était il y a une dizaine d'années. Et en même temps, on ne pouvait pas faire une traversée d'un salon où les gens étaient déjà assis à table de manière plus naturelle, spontanée et gaie. Alors donc, elle apportait quelque chose à cette soirée qui était unique.
Je suis allée interviewer Bettina dans la galerie de Jean-Gabriel Mitterrand. 8 bis rue Jacques Callot, où il se préparait une exposition de photographies sur elle.
Je suis née en Bretagne, je suis tout à fait française, en Bretagne, élevée en Normandie, Et je suis venue à Paris tout de suite après la guerre, à la fin de, après la libération en 1944.
Et c'était comment Paris à ce moment-là?
En 1940, quand je suis arrivée, ben je peux vous dire que tout était très nouveau, parce que moi j'arrivais de Normandie, d'une petite ville de Normandie, que je me trouvais propulsée dans une ville comme Paris. Alors, pour ceux qui étaient des Parisiens avant la guerre, peut-être il y avait un grand changement. Moi, je peux pas vous le dire parce que je connaissais pas Paris, mais c'était quand même quelque chose d'étonnant. Le souvenir que j'ai de cette époque-là, c'est qu'il y avait pas beaucoup de circulation, que je travaillais chez Jacques Coster, rue de la Paix, et que j'habitais près du Trocadéro, et que j'allais en vélo du Trocadéro à la rue de la Paix, avec un grand bonheur, comme ça, le cheveu au vent et la jupe qui volait, il n'y avait presque pas de voiture. C'était très, très calme à cette époque-là. Alors, bon, ce n'était pas le même Paris. Mais pour moi, c'était étonnant, parce que, vous savez, venir d'Elbeuf et de tomber à Paris, c'est quand même un grand changement.
Et est-ce que vous alliez au Tabou et à la Rose Rouge?
Ah oui, je suis beaucoup sortie. J'ai vécu la vie de quelqu'un de mon âge et de Paris à cette époque-là. Oui, oui, bien sûr. Je n'étais pas vraiment de la rive gauche, si vous voulez, comme il y avait tout ce monde-là. J'y allais. Mais j'ai jamais fait partie d'un monde très précis. J'étais un peu... Je travaillais sur la rive droite, dans les maisons de couture, et je vivais le soir quand on allait prendre un verre avec les amis, parce qu'on était tous très fauchés, vous savez, on sortait pas vraiment, on sortait mais différemment que les sorties qu'on s'imagine qu'on peut avoir maintenant. On avait un ami qui avait, rue de Ponthieu, qui dirigeait une boîte à cette époque-là, on était toute une bande, on s'amusait beaucoup. Alors on nous donnait un sandwich, un verre de je ne sais plus quoi, de bière ou de vin ou d'eau, et on dansait toute la nuit pour faire la foule. Alors vous savez, on s'amusait beaucoup. Et moi à ce moment-là, je travaillais aussi beaucoup toute la journée. Mais c'était une époque où on s'amusait beaucoup. Je crois que c'était très facile de s'amuser. C'était pas pervers, c'était pas dangereux, c'était pas. Il n'y avait pas d'histoire de drogue, il n'y avait pas toutes ces choses-là la nuit. Ça n'existait pas. Et on s'amusait, franchement, on s'amusait.
On pouvait même rentrer à pied chez soi.
Ah oui, il n'y avait pas de danger. Les choses étaient beaucoup plus simples que maintenant. C'était pas. Je ne sais pas si j'avais le même âge ou la même forme de vie. J'aurais pas du tout la même vie, d'ailleurs, que j'ai eue à cette époque-là. C'est pas possible. On était très libre, en fait. On avait une grande liberté. Et comme c'était après la guerre, on vivait les choses d'une façon beaucoup plus légère et beaucoup plus heureuse. Parce qu'on s'en était tiré. On sortait de dangers absolument effroyables que j'ai traversés avec une insouciance folle. Parce que j'étais vraiment très jeune et que pour moi, c'était pas un jeu, mais pas loin, vous voyez. Alors qu'on était en danger toute la journée, tous les jours, en Normandie. Alors après ça, on grandit, on apprécie beaucoup, on s'amuse plus dans la vie, on sait ce que c'est que la vie. Puisqu'on a vu la mort, on l'a côtoyée, donc on a le rapport entre la vie et la mort très très jeune, et je trouve que ça, c'est important. On sait de quoi on parle. J'ai été élevée par une mère, pas de père, parce que j'ai pas connu mon père. Ma mère a divorcé, j'avais 6 mois. Mais j'ai été élevée par une mère qui devait avoir, je dis devait parce qu'elle est morte maintenant depuis longtemps, mais elle devait avoir toutes les qualités qu'il faut pour élever des enfants, en même temps les qualités d'un homme et les qualités d'une femme. C'est bien que je n'ai jamais ressenti d'angoisse dans mon enfance. J'ai passé une enfance formidable. Pauvre, mais formidable. Et j'ai appris, comme ça, elle a dû me donner des sens de certaines valeurs qui m'ont servi toute ma vie. Et en plus, c'était quelqu'un d'artistique et d'intelligent, trop en avance pour son âge et pour l'endroit où elle vivait.
Qu'est-ce qui vous a mené à devenir mannequin?
Ah, mais alors là, c'est vraiment du hasard. Je peux vous dire que je n'avais aucun plan dans ma tête quand j'étais petite fille ou jeune fille d'être mannequin. Pour moi, c'était un monde tout à fait loin de moi, parce que j'habitais la Normandie et je vivais dans un milieu tout à fait éloigné de la mode. Sauf que je me souviens que, bon, je dessinais, j'ai toujours aimé dessiner, mais je dessinais des tas de choses, des fleurs, des maisons. Et puis probablement, sans le savoir, j'avais quand même une attirance pour les Roms. Et quand je suis venue à Paris après avoir fait mes études en Normandie, tout de suite après la guerre, il était évident que je devais travailler, je ne pouvais pas rester à la maison sans rien faire. Et je suis venue à Paris avec l'idée de faire du dessin de mode, ce qui n'a rien à voir avec mannequin. Et quand je suis arrivée chez Jacques Costet, où on m'a envoyée par connaissance, de hasard d'ailleurs, pour présenter mes dessins, eh bien, au lieu de présenter mes dessins et de rester comme modéliste, on m'a fait passer une robe, et je suis devenue mannequin dans la minute, sans l'avoir jamais pensé. Je ne savais pas ce que c'était que ce métier.
Qu'est-ce que vous préférez, être mannequin dans une maison de couture ou être photographié?
Je crois que ce sont deux métiers complètement différents. J'ai réussi à faire les deux. J'ai commencé d'abord à passer des collections, mais très vite, j'ai fait des photos. Pourquoi, je ne sais pas. J'étais peut-être photogénique, pas plus que d'autres, mais j'avais un style différent. Et dans les collections qu'on a fait sur moi, que surtout chez Fat, j'ai commencé, ça a ouvert un peu un style d'une fille très jeune, naturelle. En fait, j'étais pas du tout sophistiquée. Et bon, ce que je préfère, je ne sais pas, les deux. En fait, j'aime la mode beaucoup. J'ai aimé mon métier beaucoup. D'ailleurs, sinon, ça n'aurait pas duré si longtemps. Je l'ai fait quand même pendant les photos. Je les ai faites pendant 10 ans. Et les collections, j'en ai passé beaucoup. Et je trouve que dans chaque métier, il y a quelque chose d'intéressant. C'est un peu quand on y met de soi-même, quand on passe une collection, on peut vivre la robe. D'abord, on la vit quand on vous la fait sur vous. Et toute cette partie-là, quand on a la chance de travailler pour des gens qui ont beaucoup de talent, comme ça m'est arrivé pour Fat ou Givenchy, quand on vous crée une robe sur vous, c'est un moment de création. C'est proche de l'art, c'est une création. Et ensuite, ça devient vivant parce qu'on vous met dans la robe et c'est à vous de créer la vie à la robe par rapport entre le couturier et la cliente ou la personne, les personnes qui sont dans le salon en train de regarder les robes. Et vous êtes à ce moment-là le trait d'union, un trait d'union très important entre la création du couturier et la personne qui va peut-être acheter la robe et qui se voit, elle, dans la robe que vous lui présentez. Et c'est quelque chose de très, très important. Vous vivez, vous jouez un peu, c'est un peu jouer le rôle de la robe, donner l'atmosphère à la robe et lui apporter ce qu'il faut pour, avec de l'enthousiasme aussi, ça se sent. Maintenant, le métier de modèle, ça, c'est tout à fait autre chose et ça s'apprend. On apprend à se regarder, à savoir de quel côté on est le mieux. On apprend à sentir le besoin, la demande du photographe avant qu'il vous le dise, parce que ça fait partie du métier aussi. Et c'est assez difficile, c'est un métier très difficile. Ça demande beaucoup de vous.
Ils ne sont pas toujours commodes, les photographes.
Ils ne sont pas toujours commodes, chacun a sa personnalité. Je n'ai jamais eu de mauvais rapports avec les gens avec qui je travaillais, parce que probablement je suis calme et j'étais patiente, et que s'il fallait attendre des heures, parce qu'on attend des heures dans ce métier, on attend la robe, on attend la rédactrice, on attend l'autre mannequin, on attend toujours quelque chose, c'est comme dans le cinéma, hein, on attend. Alors il faut être patient et vraiment prendre les choses avec bonne humeur.
Voilà. Par rapport aux photographes avec qui vous avez travaillé, par exemple, comment c'était le travail avec Penn?
Le travail avec Penn, c'est un travail extrêmement minutieux qui demande énormément de vous-même. On sort de là d'une séance de pause avec Penn un peu épuisé parce que c'est quelqu'un de très très perfectionniste. En plus de ce grand talent, et chaque millimètre de lumière compte pour lui. Alors, vous pouvez avoir l'impression que vous restez toute une journée à poser la même pose dans le même vêtement, même si vous vous arrêtez pour refaire un peu le maquillage, vous recommencez avec la même pose, le même sourire. Mais pour lui, tout est différent parce qu'il va changer un millimètre de lumière que vous ne voyez pas et qui fait toute une différence sur un film qui l'aura changé sans que... C'est un travail extraordinaire. C'est un très grand photographe. Et on le sent. On est très intimidé d'abord quand on est un modèle et qu'on va travailler dans le studio pour lui. Il vous intimide parce qu'il a un œil bleu qui vous détaille et vous regarde comme si son œil était l'objectif. Il vous voit, mais je suis sûre qu'il vous voit déjà en photo. Alors, c'est une façon de regarder les gens qui vous déshabillent moralement, physiquement, enfin tout est... Et il est assez froid, comme ça. C'est quelqu'un qui n'a pas une communication chaleureuse, ou visiblement chaleureuse, alors qu'il est très sympathique, mais il faut le connaître. Mais dans le studio, c'est quelqu'un de très exigeant. Et il fait des photos absolument magnifiques.
Et puis, j'ai demandé à Bettina comment c'était de travailler avec Robert Doisneau.
I'm sneaky as a snake, I'm dirty as a dog, I'm rushing like a goat, I'm horny as a hog.
J'ai un souvenir attendri de Doisneau, mais Doisneau est le même. Il n'a jamais été différent, il a toujours été un peu en recul comme ça derrière son appareil de photo, mais avec beaucoup de gentillesse. Il était, c'est quelqu'un qui était un œil très discret, voilà, très discret. Et il a fait des photos adorables, que j'ai retrouvées l'autre jour avec la neige qui tombe entre l'appareil de photo et moi. C'est une photo, on a envie d'embrasser la photo, c'est tellement charmant et doux et sympathique, et c'est quelqu'un qui a un œil extraordinaire, comme on le sait. Je ne veux pas décrire qui est Doisneau, photographe, mais de poser pour lui, c'était une époque où il était beaucoup plus jeune, et comme moi, et faire des photos de mode pour lui, ça devait être important, parce que ça devait lui permettre de vivre aussi. Mais il est resté le même. J'ai des souvenirs comme ça, des photos faites dehors, dans la rue, avec Doisneau. Cartier-Bresson aussi, des photos dehors, aussi très très discret, même plus que discret, il était invisible. Moi je trouve très belles les photos de mode qu'il a fait, mais lui n'aime pas ça, il n'a pas aimé les photos de mode, il n'aime pas ça, il n'a jamais voulu en faire. C'était une commande de... il avait demandé, ou je ne sais plus qui avait demandé, à l'album du Figaro, qui était un magazine à cette époque-là très important, de passer 2 jours à faire des photos avec moi. Et on est allé dans la rue, dans Paris, dans la galerie Vivienne, qui est un très joli endroit. Et cette série de photos est absolument formidable. On dirait des photos de films. Ça a quelque chose de plus que la photo de mode. Et voilà, ça c'était une expérience assez, assez étrange et assez étonnante, parce qu'on ne pense pas ni à Doisneau, ni à Cartier-Bresson comme photographe de mode.
Et avec Horst.
Horst, j'ai beaucoup travaillé avec lui. C'était souvent pour moment où des collections pour Vogue américain. J'ai fait aussi une ou deux photos avec lui en Amérique. Mais c'était très sympathique. C'était quelque chose toujours un peu intimidant. Mais c'est un grand, grand professionnel. D'ailleurs, c'est un tel spécialiste de la lumière. Que maintenant, les photographes, l'autre jour, je suis allée le voir parce que j'ai gardé des rapports absolument charmants et je voulais leur expliquer l'exposition. Et Horst nous a envoyé des photos, des tirages très beaux. Mais il m'a dit que maintenant, il vit à la campagne, il vient très peu à New York. Il a des étudiants en photo, des jeunes photographes qui viennent le voir parce qu'ils veulent apprendre la technique de la lumière, dont il est un des grands spécialiste de la lumière en studio, que beaucoup de photographes n'ont jamais appris ou ont perdu, parce qu'ils ont fait beaucoup de photos en extérieur et beaucoup de photos avec des lumières tout à fait différentes. Et il y a un retour vers la technique de la lumière des photos de Horst en studio.
Et quand vous avez travaillé avec Fat, ça se passait comment? Parce que c'était quelqu'un de formidable, non?
Formidable. J'ai passé tellement d'années, beaucoup d'années importantes de ma vie, Et malheureusement, il est mort il y a très longtemps. Quand il est mort, j'étais déjà partie de chez lui parce que j'avais plus le temps de passer les collections. Et puis au bout de plusieurs années, on grandit. C'est comme les enfants qui grandissent et qui s'en vont de la maison. Je suis partie faire des photos et je ne faisais que des photos. Et c'est à cette époque-là où il est mort. Alors j'ai peut-être les dernières années ou la dernière ou les deux dernières années de sa vie. Je crois qu'il est mort 2 ans après je suis sortie de la maison. Je l'ai perdu un peu de vue, mais c'est quelqu'un qui a été extrêmement important puisque je suis née une deuxième fois grâce à lui. C'est lui qui m'a baptisée Bettina, qui est devenu mon nom, et personne ne pourrait penser que ça n'est pas mon nom. Et c'est lui qui m'a donné une carrière. C'est-à-dire qu'avant, je faisais des photos, j'ai passé des collections, une collection chez Costet, mais c'était encore à l'état embryonnaire. C'est-à-dire qu'on savait que peu de gens savaient que pouvais faire des photos. Mais quand je suis arrivée chez FAT, il a battu le banc de tous ses amis pour venir voir sa nouvelle découverte qui était moi. Et comme j'avais un style très différent des autres mannequins, il a créé une collection très différente sur moi. Et je crois que cela l'a inspiré beaucoup. Parce que d'abord, j'étais beaucoup plus jeune que les autres. Et il m'a fait une collection très, très simple et très jeune fille, si vous voulez, tout en ayant le côté très sophistiqué de Fat. Donc moi, je lui ai apporté ce côté très nature, et lui m'a apporté alors une sophistication qui est même amusante quand on voit des photos de la première collection de Fat et ce qu'on peut devenir après. Il y a un tel changement. Le fait de travailler dans la mode vous affine, vous affirme, vous développe votre personnalité physique. Je crois qu'on apprend à la mode vous donne la possibilité de vous embellir, certainement. Évidemment, avec le temps, on perd le côté un peu rond et bébé qu'on a quand on arrive de la Normandie à Paris. Mais on apprend, c'est un merveilleux métier pour les femmes parce qu'on apprend à tirer le meilleur parti de soi-même, même inconsciemment. C'est-à-dire qu'en vivant dans ce monde de la mode et en ne voyant que des choses qui servent à embellir les autres, forcément, ça vous embellit aussi. Et Fat était quelqu'un qui faisait très attention aux gens avec qui il travaillait, et tous ces mannequins qu'il aimait beaucoup, il trouvait que c'était comme une famille. Il partageait un peu la vie privée des filles qui travaillaient, de ces mannequins, qui étaient des filles qui travaillaient dans son studio, dans sa maison de couture. Et d'ailleurs, il nous appelait toujours mes filles. Et il avait un instinct protecteur un peu surtout avec moi parce que j'étais la plus jeune et c'était charmant et passionnant de travailler pour lui. Puis en plus, il était quelqu'un de très gai. Il riait tout le temps, il aimait la fête, il était toujours optimiste, il était quelqu'un de fascinant. Très créatif et très avant-garde et très fantaisiste. Les choses n'étaient jamais ennuyeuses. Il y avait toujours autour de lui, il avait des amis qui venaient, ce qui donnait de l'atmosphère dans le studio de quelque chose d'un peu déjà un petit peu public. Alors, c'est très important d'avoir un public. Quand ça se passe entre le couturier et le mannequin tout seul, c'est un peu triste. Tandis que là, il y avait toujours une vie autour de lui, des gens qui parlaient. Il y avait Marie-Laure de Noailles, il y avait des tas de gens comme ça qui venaient pendant qu'il travaillait. Et ça, c'était très agréable.
Marie-Laure de Noailles, vous l'avez bien connue ?
Oui, je l'ai connue là. Elle venait dans le studio de Fat et elle s'asseyait par terre et elle regardait son travail ou quand il y avait des nouvelles choses qu'il avait fait, alors il me demandait ou à d'autres mannequins de sa maison de lui passer, de lui montrer. C'était très vivant. Alors bon, il y avait toute la création faite avec les tissus. On arrivait avec sa petite blouse blanche. On était tout en blouse blanche. C'était très charmant d'ailleurs. On était dans la cabine et on nous appelait. Monsieur Fat vous demande. Alors vite, on mettait la petite blouse, on montait dans le studio. C'était assez uniforme comme ça. Et alors, il prenait le tissu. On enlevait la blouse. On était Qu'est-ce qu'on avait en dessous à cette époque-là? On avait des bas, on avait des guêpières. On avait souvent des guêpières à cette époque-là. Et ils prenaient le tissu, ils le roulaient sur vous, et puis voilà, clac, clac, clac. Et pendant que lui tenait le tissu, en fait, c'est ça le métier de mannequin. Il fallait bouger et prendre la pose sans être fixe. C'est-à-dire, il fallait bouger devant la glace et devant lui avec le tissu pour donner la vie au tissu. Et le mouvement faisait que tout d'un coup, un certain mouvement lui donnait une certaine idée d'une certaine robe. Et son idée partait de là. Donc, c'est un grand travail, le travail d'être mannequin. C'est pas juste se tenir comme ça et attendre que tout vienne. Et ça, c'était très amusant.
Ça vous dérangeait pas que les tailles soient aussi étranglées?
Mais c'était pas étranglé. Vous savez, quand j'avais cette taille-là. Et d'abord parce que, bon, c'était d'après ma constitution physique. En plus d'être mannequin, ça vous fait rester debout pendant des heures. Vous marchez, c'est presque une gymnastique perpétuelle. Vous êtes toujours en mouvement. Et vous marchez quand vous présentez la collection, vous faites des kilomètres sur des moquettes, sur des talons. C'est pas toujours facile et c'est un exercice physique. En plus, on n'a pas le temps de déjeuner, on n'a pas le temps de s'installer à une table dans la journée, tout au moins. Le soir, quelquefois, ça m'arrivait de sortir avec des amis de dîner. Mais l'heure du déjeuner, c'était toujours à toute vitesse, un sandwich, un machin, dans un studio de photos, un café, un sandwich, ou rien, quelquefois rien du tout. Alors, on a le ventre creux, et c'est vrai, on a le ventre, l'estomac rentré, et on prend l'habitude d'être comme ça. Alors, il n'y a pas un pouce de graisse qui s'installe sur vous. Et puis, je veux dire que de passer des robes, lever les bras, c'est aussi un exercice, c'est une gymnastique. Surtout qu'à cette époque-là, il y avait des robes avec des jupons, on avait des guêpières, puisqu'il y avait le new look, alors on se mettait dedans, on se serrait, on vous serrait beaucoup la taille, on était habillé toujours avec des tailles très très petites. Et je me souviens de l'habilleuse, quand on était dans la robe, il fallait s'appuyer sur la taille pour creuser la taille encore plus, pour fermer le crochet, le gros grain. Et en plus, une ceinture très serrée, on était serré. Mais on ne souffrait pas du tout, vous savez. Ce sont des habitudes, tout ça.
À l'époque que vous étiez mannequin, vous étiez toutes différentes. C'est très bien, je veux dire, Lisa Fonseca, vous étiez comme elle était, Dorian Lee était comme elle était.
Ça, c'était des modèles pour photos, elle ne passait pas de collection.
Oui, je sais, mais vous avez toute une personnalité différente et vous étiez tout à fait reconnaissable en tant que qui vous êtes maintenant, elles sont toutes pareilles.
Oui, je ne sais pas de quoi ça vient. Est-ce que les photographes ont des modèles dans la tête et qu'ils veulent, ou les journaux choisissent les modèles en fonction d'un style de fille, de modèle que les journalistes veulent dans leurs journaux? Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que parce qu'elles passent par des maquilleurs et des coiffeurs qui sont presque tous les mêmes, qui font les coiffures et les maquillages dans les collections, est-ce que ces coiffeurs donnent le même style à tout le monde, alors qu'à mon époque, comme on dit, à l'époque où j'étais mannequin, on n'avait pas de maquilleurs et de coiffeurs. Alors, chacune se faisait sa coiffure et son maquillage, évidemment aussi sous l'œil du photographe qui disait « Ah, mais je voudrais, par exemple, travailler pour Penn. » Il demandait que les lèvres et les sourcils soient très noirs. Et ça m'est arrivé d'avoir des maquillages presque blancs, de pancakes blancs, avec un rouge à lèvres et des sourcils et les yeux très maquillés en noir. Bon, ça, c'était des choses pour les photos. Mais le photographe vous le disait. où il disait « Je voudrais que tu mettes un rouge plus clair » parce que, voilà, lui savait ce que les lumières, l'atmosphère de la photo qu'il voulait avoir. C'était l'aide de photographe, c'était pas le maquilleur. On n'avait pas de maquilleur. Dieu merci, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Et peut-être la personnalité restait beaucoup plus visible. Parce qu'un maquilleur, c'est très très beau, mais quelquefois il efface un peu la personnalité du visage. Je ne veux pas parler contre les maquilleurs, mais il me semble que dans un métier comme ça, ça peut gêner, moi je trouve.
J'ai demandé à Bettina comment elle a connu Hubert de Givenchy.
Ah, moi, je l'ai connu il y a très longtemps. Il travaillait chez Schiaparelli. Et il faisait je crois qu'il faisait la collection pour la boutique de Schiaparelli. Enfin, il a travaillé longtemps avec elle. Et comment est-ce que je l'ai connu la première fois? Ça, c'est un peu flou dans mon esprit. Mais je l'ai connu certainement à travers mon travail, à travers les robes, à travers les... Et puis, ensuite, quand il a ouvert sa maison de couture, j'étais très amie d'une grande amie à lui qui s'appelle Hélène Bouilleux-Lafont. Et qui, à cette époque-là aussi, j'étais amie de Maxime de la Falaise, encore maintenant d'ailleurs, mais je veux dire, c'était les débuts de tout ce monde. Et Maxime a fait également, en même temps que moi, est rentré chez Givenchy pour sa première collection, quand il était rue Alfred de Vigny sur le parc Monceau. Il a quitté, en fait, Schiaparelli pour ouvrir sa propre maison de couture. Et ça, c'était aussi un événement, parce que le style de Givenchy, surtout, enfin, à cette époque-là, apporter quelque chose de nouveau dans la mode. Et donc, j'ai participé, en fait, à deux grands moments de la mode. Jacques Fatt, qui a été très important, et puis les débuts de Givenchy. On a un peu oublié, parce qu'on oublie toujours les débuts des autres, il y a toujours des débuts de quelqu'un de nouveau, mais les débuts de Givenchy étaient très, très... j'allais dire médiatisé, c'est un mot tellement horrible. On en parlait beaucoup, c'était un grand succès, c'était un grand événement dans la mode, ça a été très important. Et il a amené des choses nouvelles, des matières dont on ne se servait pas, un style nouveau, qui est encore d'ailleurs très à la mode. S'il refaisait une collection, peut-être avec le recul, il faut toujours un peu de recul pour les choses pour lesquelles on retourne en arrière. Il faut toujours les adapter à l'œil actuel, parce que ça sera encore très, très portable et très joli. Alors voilà, donc j'ai passé quand même la première collection de Givenchy, la deuxième collection de Givenchy. Ensuite, je suis restée chez lui et en même temps que je faisais la collection, je passais la collection pour lui, je m'occupais des relations publiques avec la presse. Alors c'était beaucoup de travail, plus mes photos, plus...
Et je lui ai demandé quelles étaient ses impressions de différence entre le mannequin de son époque et d'aujourd'hui.
Moi, j'arrivais, j'étais pas la seule, on avait toujours une paire d'escarpins qui allaient pour tout, une paire de chaussures plates, Jean Ballerine, qui allait aussi pour beaucoup de choses, sans maquillage, des accessoires, des colliers. On demandait toujours quel genre de photo, qu'est-ce qu'il faut amener, est-ce qu'il faut amener des bijoux à soi. On avait un matériel de travail, ce qui est normal, je trouve. On avait ses pancakes, on avait sa boîte de maquillage à soi. Et je trouve que c'était bien. On avait quelquefois des perruques, effectivement. Il y a eu une époque où... Mais c'était moins, ça. Surtout à l'époque où moi, je faisais des photos, il y avait beaucoup de chapeaux. Or, les chapeaux, à cette époque-là, demandaient souvent avoir les cheveux complètement tirés. Alors, ça, c'était pas un problème, parce qu'on avait les cheveux entièrement roulés derrière, avec le chapeau par-dessus. Mais quelquefois, non, les robes du soir, tout ça, c'était... Évidemment, il fallait aller chez le coiffeur avant. On ne pouvait pas arriver et sortir de sa baignoire et demander à être aussi sophistiqué qu'on vous demandait d'être. Mais il fallait quand même faire des passages chez le coiffeur. Mais ça faisait partie de votre travail. Ce n'était pas le photographe ou les journaux qui vous envoyaient chez le coiffeur. Il fallait arriver convenable, prête à travailler. Alors je crois que ça, c'est très différent maintenant.
Les canons pour les mannequins ont complètement changé. Vous faites 1m66.
Ah oui, dans les tailles, oui. Ben, j'étais pas la plus grande, non, mais j'étais une taille normale. Mais il y a eu plus petit, parce que souvenez-vous que chez Dior, il y a eu Victoire qui était toute petite. Il y avait Sylvie Gélin qui était plus petite que moi. J'ai toujours été dans la moyenne. Maintenant, les filles sont beaucoup plus grandes. C'est tout à fait d'autres critères de beauté. Elles sont très très grandes. Mais vous savez aussi pourquoi. C'est que les collections se passent dans des endroits très grands, avec des podiums assez hauts, et que si les femmes sont petites, peut-être les couturiers ont l'impression que les choses diminuent par rapport à l'œil des gens qui les regardent. Tandis qu'avant, les collections se passaient dans des salons qui n'auraient pas été beaucoup plus grands qu'ici. Et que si les femmes étaient trop grandes, elles disproportionnaient tout. Donc, sans le vouloir, on avait besoin, à cette époque-là, de mannequins de taille moyenne. Je mesure 1m66, on m'a toujours pris pour plus grande. Mais il y avait les plus grandes, Sophie Lidvac, il y avait des plus grandes qui mesuraient 1m72, 75, c'était le maximum. Mais maintenant, 1m80, c'est courant.
Mémoire du siècle, Bettina. Et puis, j'ai demandé à Bettina comment c'était Paris après la guerre.
Après la guerre, quand je suis arrivée à Paris. Alors, bon, il y a eu deux façons de la vivre. D'abord avec... j'étais tellement étonnée par ce que je voyais, parce que, bon, entre ma vie en Normandie, et comme je vous ai dit tout à l'heure, et ce que je voyais dans les maisons couture, il y avait un monde, c'était extraordinaire. Mais je crois qu'à cette époque-là, les femmes redécouvraient tout d'un coup une possibilité de plaire à nouveau. On n'avait plus besoin, le danger était presque fini, écarté. La vie reprenait, les gens avaient envie, comme je vous ai expliqué pour moi, ça se passait aussi pour les autres, les gens avaient envie de revivre. Et la mode, qui a toujours été quelque chose de très important dans les relations entre les gens, a été extrêmement créative à cette époque-là, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de, tissu, il n'y avait pas de... Et alors, les femmes qui venaient dans les maisons de couture pour acheter étaient vraiment... Elles achetaient beaucoup. Je pense pas que c'était aussi cher, si on doit parler de prix, que ce que ça représente maintenant pour une femme. C'était beaucoup plus facile à cette époque-là d'acheter des robes dans la maison couture. En plus, il n'y avait pas de prêt-à-porter. Alors, les femmes qui s'habillaient, j'ai oublié comment la rue s'habillait, mais probablement, il n'y avait rien. Elles s'habillaient avec quoi? Elles se faisaient des robes, probablement, chez elles, non? Des petites jupes, des machins, qu'elles devaient voir dans les magazines de mode, parce qu'il y avait des magazines de mode, mais c'était très limité. Quand on voit le L de cette époque-là, où il y avait beaucoup de dessins, il y avait quelques photos, mais c'était assez misérable. Maintenant, c'est un luxe inouï. Seulement, les femmes qui s'habillaient ne s'habillaient qu'en couture. Alors, il y avait tout un monde de gens, quand même très riches, qui allaient dans les maisons de couture. Et les présentations de couture étaient des grands événements luxueux. Il n'y avait pas le... Ça n'a plus rien à voir avec maintenant, parce que maintenant, ça se passe dans des endroits anonymes où on essaie de mettre le plus de gens possible. En fait, là-bas, les gens les plus importants étaient les clientes. Et il y en avait beaucoup. Seulement, ça se passait dans les salons des couturiers. Et alors, ça devenait un événement mondain, comme les collections de fêtes. C'était aussi important qu'une première de théâtre. Et quand on voit les photos de la première de la collection, il y avait une émotion, un événement mondain, un événement artistique et théâtral qui faisait que quand vous étiez là, sortant votre robe, dans le salon, il n'y avait pas de podium, on marchait au milieu des gens, comme ça, les femmes pouvaient toucher les tissus. C'était, on se sentait décuplé d'importance, de beauté, de force. Enfin, tout le monde y mettait le maximum. Et les robes avaient énormément d'importance, la mode avait énormément d'importance à cette époque-là. Alors les gens achetaient, les femmes achetaient, mais elles ne le portaient pas dans la rue, parce que, à cette époque-là, la vie était différente. Les femmes vivaient chez elles, avaient des voitures, allaient dans des endroits, des soirées, où on portait énormément de robes du soir et de bijoux. Les femmes actuelles, elles ont besoin de s'habiller pour la rue, parce qu'une femme, même très riche, à part quelques-unes qui vivent encore dans des bulles très protégées, une femme riche qui peut s'habiller dans une maison de couture, elle a besoin dans la journée d'aller faire des courses, de marcher, de faire des choses... Donc, elle s'habille en prêt-à-porter. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de prêt-à-porter et les femmes ne se baladaient pas dans la rue comme ça. C'était pas du tout le même, c'était pas la même vie. Alors, toutes ces femmes vivaient dans un monde assez privilégié, particulier, et elles s'achetaient des robes, des tailleurs pour les déjeuners, pour les courses. Ça comptait énormément. Et les femmes s'habillaient beaucoup.
Et je crois qu'à ce moment-là aussi, c'est vrai que les femmes, il existait beaucoup de patrons dans les journaux.
Ah oui. Oui, c'est comme ça que les femmes se faisaient des robes. Alors elles achetaient un journal, un magazine et de mode, qui était le Elle ou le Jardin des Modes. Et il y avait des patrons qu'elles se refaisaient elles-mêmes. Les femmes cousaient beaucoup pour elles. Ou elles avaient des petites couturières. Un métier qui a disparu, la petite couturière. Il n'y en a plus beaucoup.
Et ça permettait à des femmes qui n'avaient pas beaucoup d'argent d'être habillées quand même de manière couture.
Oui, c'était des copies des robes de couture. Mais j'ai un vague souvenir de la rue. Comment s'habillaient les femmes dans la rue à cette époque-là? Moi, je me souviens mal. Elles s'habillaient... Ça ne devait pas être formidable. Elles ne devaient pas être très belles, les femmes dans la rue. Non, je ne crois pas qu'elles étaient follement élégantes, parce que je ne sais pas où elles trouvaient leurs vêtements.
Et, par exemple, au moment du New Look en 47,
oui.
Est-ce que ça a révolutionné la rue à Paris ou
Ah oui, beaucoup. Ça a pris un peu de temps, parce que ça, quand même, c'était un changement tel que pour se passer d'une robe aux genoux à... au New Look, il fallait changer complètement sa garde-robe. Ça a pris quelques années. Mais c'est venu petit à petit, parce que les Françaises ont ça de formidable, c'est qu'elles ont un œil, un besoin de la mode qui fait que, de toute manière, elles vont suivre la mode. Par un petit détail ou par un changement complet, elles vont se mettre à la mode actuelle, à la mode de la mode. Et ça n'est pas une question de moyens. C'est une question d'avoir envie. Et les Françaises ont toujours envie d'améliorer ou de changer leur garde-robe ou leur petite jupe ou leur petite blouse, ou le petit détail qui feront qu'elles auront quelque chose de nouveau à la nouvelle saison.
Posé dans le pantalon de Claire McCardle sur la Riviera avec Pablo Picasso.
Oui.
Comment ça s'est passé? Vous m'avez dit que ça a duré 4 jours.
Oui, ça a duré 4 jours. C'était toute une histoire et c'est un souvenir absolument unique parce que je ne crois pas qu'il ait fait beaucoup de photos de mode dans son atelier. Et ça s'est tellement bien terminé que j'avais l'impression que j'étais incorporée dans la maison, de la vie de la maison de Picasso. Mais ça, ça a commencé très difficilement parce que c'est quelqu'un qui était très occupé et qu'on ne pouvait pas voir chez lui. Il fallait qu'il donne un rendez-vous et que pour avoir ce rendez-vous, même avec des photographes et des Américains et des et pour des raisons de travail, il ne le faisait jamais. Alors j'avais la chance de connaître Clouseau, qui venait de faire son film sur Picasso. Et je lui ai demandé de m'aider. Alors, je suis restée à Cannes, à Antibes, en fait, pendant 3 jours, à sortir, déjeuner, aller sur la plage avec Picasso. J'ai passé 3 jours de vie très, très agréable et très amusante en attendant que Picasso donne son accord. Mais tout ça, lui, le faisait pour me connaître. Et il a donné son accord après 4 jours, avec 3 jours, 3 jours d'approche, de vie tout à fait en dehors de la mode. C'était très amusant d'aller sur la plage avec Picasso, de déjeuner dans le bistrot à Antibes, là où il était toujours. Et tous les jours, avec Clouseau, il me disait « ça va arriver, il va dire oui, il va dire oui ». Et finalement, il a dit oui. Alors ça, c'était un grand jour pour les photographes de Life et de... pour cette séance de photos. Et on a passé absolument toute la journée dans cette maison. Et Picasso a été charmant. Il s'est déguisé. Il adorait se déguiser. Alors, il mettait toutes sortes de chapeaux. Il prenait des poses selon le déguisement qu'il avait. Et tout ça pour faire un grand numéro avec moi. D'ailleurs, la photo est là. Il a un sabre à la main, un chapeau. Mais ça a duré toute la journée. Et je dois dire que j'ai passé un moment formidable dans cette maison. Parce que, bon, c'était ce qui m'étonnait beaucoup, c'est que la maison de Cannes était immense, avec des caisses et des caisses partout, des tableaux partout, par terre, comme ça. C'était un amoncellement de choses qui n'étaient pas, rien n'était accroché. Et en même temps, il y avait cette belle lumière, Picasso qui était absolument formidable, et sa fille aînée que j'ai connue, Maya. Elle s'est occupée de moi, elle me changeait, s'occupait de faire l'habilleuse, m'avait installée dans une chambre. Et en fait, j'aurais pu rester là pendant 8 jours à passer des vacances. Oui, c'était tellement amical et tellement sympathique que voilà la séance de photos que j'ai eu la chance d'avoir à travers mon métier, ce qui est assez rarissime, ce qui est d'avoir avec des gens comme Picasso.
Mais aussi peut-être à cause de votre charme naturel.
Je crois que Picasso était très content avec moi. Il ressentait pas quelqu'un de... Je me suis amusée, comme je suis pas quelqu'un de triste. Il faisait son numéro un peu pour moi. Et pour le photographe, évidemment. Mais il a joué parce qu'il savait qu'il avait un public qui répondait à son jeu, qui l'amusait beaucoup. Parallèlement à mon travail, qui était dans le monde de la mode, j'avais des amis qui étaient plutôt des artistes ou des écrivains. Et la vie se passe comme ça. On rencontre quelqu'un qui vous fait rencontrer d'autres gens, on rentre dans un milieu. Et là, je suis devenue, par exemple, grâce à quelqu'un, très amie de Gaston Gallimard, avec qui je dînais peut-être une fois par semaine. Je dîne pas seule, mais on était 4, par exemple, à dîner. Et c'était quelque chose de rarissime. C'est un souvenir absolument merveilleux, parce que je me souviens qu'il nous racontait. Il racontait très bien, en plus. Il avait une façon très douce de raconter les histoires. Et il nous racontait comment Proust, il allait le voir pour lui faire écrire ses livres, et qu'il le trouvait dans sa chambre surchauffée, et qu'il était couvert comme un oignon, et qu'en parlant, tout en parlant avec Gaston Gallimard, qui passait des heures et des heures et des heures et des nuits, parce qu'il était toujours malade, et il s'enlevait tous ses vêtements, et il avait 3 paires de chaussettes, il avait des pullovers, et tout ça en parlant, il s'épluchait comme un oignon. Et je me souviens de l'histoire comme ça que Gaston Gallimard racontait. Puis j'étais invitée, une fois que vous connaissez des gens dans un certain milieu, j'étais invitée par exemple au fameux cocktail de la maison Gallimard. Alors là, j'ai rencontré tous les écrivains de la maison Gallimard et j'ai gardé des relations très amicales avec certains écrivains comme Prévert, par exemple, que j'aimais beaucoup et que j'allais voir chez lui quand il habitait au-dessus du Moulin Rouge. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup.
Et comment du Moulin Rouge.
Son appartement qui était rempli de travail, de feuilles de travail, de dessins, de livres, c'était une vie de travail, mais c'était tellement mêlé, sa personnalité et son travail, qu'on ne savait plus quand il vous parlait s'il était en train d'écrire un poème ou si ou s'il vous parlait, s'il parlait vraiment comme ça. Mais c'était quelqu'un qui était comme ce qu'il écrivait. Alors j'ai assez bien connu, j'ai beaucoup aimé Prévert. Il me manque, c'est quelqu'un que je trouve qui manque dans l'esprit de la vie actuelle. Et puis j'ai connu, je ne sais pas, alors là vraiment, beaucoup, beaucoup d'écrivains de la maison Gallimard, parce que comme ça, par. Je ne sais pas, j'ai connu Kessel et Maurice Druon, et ça amicalement, parce que c'était des gens que j'ai connus et vus très longtemps dans ma vie. Et ce sont des gens qui marquent leur époque, qui marquent l'amitié, et des gens qui ne s'effacent jamais du souvenir. Je peux vous dire que Joseph Kessel, c'est quelqu'un qu'on n'oubliera jamais.
Alors, Joseph Kessel était comment ?
Ben, c'était un homme fascinant. Il était une force de la nature. Et c'était quelqu'un qui vous entraînait dans moi, je crois que c'est quelqu'un qui vous faisait rêver. C'est-à-dire que c'est un personnage qui avait vécu des aventures tellement extraordinaires que même quand il était dans un restaurant ou dans un endroit où on prenait un verre avec lui, il traînait avec lui, autour de lui, cette atmosphère d'aventurier et d'homme qui avait vécu des choses extraordinaires. Ça se sent, vous savez, sur les gens, ça. Et il était très différent des autres. Bon, il avait. Alors, je l'ai vu aussi beaucoup avec Maurice Druon, qui était son neveu et qui était à cette époque-là un jeune homme assez mince et mince plutôt et pas du tout l'académicien qu'on voit maintenant. Je veux dire, c'était un autre personnage. Évidemment, il y a si longtemps que tout le monde a changé. Hein. Mais Joseph Kessel, c'est drôle, j'ai un souvenir de lui comme quelqu'un qui n'a jamais changé. Je n'arrive pas, je l'ai vu pendant plusieurs années, assez longtemps, et je n'arrive pas à me souvenir de lui en train de changer. Il y a des gens qu'on voit jeunes, et puis ensuite on a un souvenir de plus vieux, puis ils ont vieilli. Joseph Kessel, j'ai une image unique de lui, c'est curieux. Hein, je ne sais pas quelle est la bonne, est-ce que c'est celle que j'ai en mémoire, ou est-ce que j'ai éliminé les autres images, mais c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, qui avait une grande puissance et un grand déplacement d'air aussi. Il bougeait, il avait une carrure énorme, une tête très grosse. Enfin, il était volumineux. C'est quelqu'un de puissant. Et alors, j'ai encore cette image de lui, en train de parler, de vivre, un accent extraordinairement fort. Et un homme fascinant.
Je suis chez vous et je suis très contente d'être chez vous. Et je remarque que sur vos murs, il y a des tableaux de Poliakov.
Mm-hmm, oui.
Est-ce que vous l'avez connu ?
Très bien. C'était un grand ami à moi, je l'aimais beaucoup. Et je crois que, comme ça, il avait une amitié aussi à sa famille. J'étais très liée, en fait, à lui et à sa famille. Et il m'arrivait très souvent d'aller le dimanche prendre le thé, heurter à la rue, rue de Seine, dans cet appartement, où il y avait toujours les nouveaux tableaux qu'il venait de peindre. Et il y avait toujours un triptyque au bout d'un couloir. Et sa femme, Marcel, préparait le thé à la russe. Et il y avait quelquefois son frère qui venait et qui jouait de la musique. Et c'était une atmosphère absolument extraordinaire. Et voilà, donc tous les ans, il m'envoyait comme cadeau de Noël un tableau. C'était vraiment très gentil. Et je vis avec et je ne pourrais pas m'en passer.
Est-ce que vous avez connu Sonia Delaunay ?
Non, jamais. Alors qu'elle était ma voisine, elle habitait ici, rue Saint-Simon, et pendant le début des années où j'ai emménagé dans ce quartier, Et je la voyais toujours arriver dans cet immeuble, qui est un immeuble d'une époque tout à fait définie. Je crois que c'est un immeuble 1930 ou quelque chose comme ça. Et elle habitait, elle avait une Rolls. Je ne savais pas qui elle était. Et je voyais cette dame qui sortait d'une Rolls, qu'on arrêtait toujours au milieu de la rue, une Rolls bleue assise très belle, avec un chauffeur qui l'aidait à sortir, à rentrer, de la mettre dans l'ascenseur. La Rolls bloquait la rue. Mais après, j'ai demandé qui était cette dame. J'ai appris que c'était Sonia Delaunay. Mais voilà, c'est tout ce que je connais d'elle. Je n'ai jamais parlé. C'est une femme assez forte, assez âgée, très âgée et très, assez marchant difficilement.
Propos par rapport à vous, parce que vous dites que vous étiez très jeune, mais vous êtes encore très jeune.
Ah oui, mais j'ai l'air peut-être très jeune ou jeune, mais je ne suis plus très jeune. Hélas, je voudrais ne jamais vieillir. C'est pas que j'ai peur de l'âge du tout, pas du tout. Je suis pas affolée d'avoir une ride. J'accepte ça et même quelquefois je ne le regarde pas. Mais c'est le temps qui passe qui m'embête. C'est le temps qui, forcément, j'ai moins de temps devant moi que derrière moi. Et c'est ça qui m'embête le plus dans le vieillissement.
Vous pensez que votre célébrité est venue d'où ? De vous-même ? Sans doute ?
Je ne sais pas. Comment voulez-vous que j'explique ? J'ai une célébrité relative, il y a des gens beaucoup plus célèbres que moi. Mais ce qui m'étonne dans mon cas, c'est que ça a duré si longtemps et que, bon, il y a maintenant des gens qui ne savent plus du tout qui je suis et ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est quand même un temps très très long. Je voyais que vraiment depuis les années 1945, je suis dans les journaux, j'ai posé, j'ai passé des collections, et encore maintenant, je veux dire, c'est curieux, c'est comme si c'était une place naturelle dans la vie pour moi. C'est peut-être le fait de vivre à Paris, je ne sais pas, que la mode m'a... Je ne sais pas, si j'avais fait autre chose, si j'avais été... Je ne sais pas ce qu'on peut faire dans la vie. On suit son destin parce qu'on va vers ce qui vous plaît en général. Mais si j'avais pas travaillé dans la mode, est-ce que j'aurais eu un métier qui m'aurait apporté ce que vous dites, comme vous dites, la célébrité ? Quoi que je vous dise, c'est une célébrité, c'est pas une célébrité violente. J'ai pas la célébrité des grandes stars qui sont des célébrités. J'ai une célébrité comme ça, facile. Et c'est peut-être beaucoup plus facile à porter aussi. Je n'en ai pas les drames ni les inconvénients.
Vous pouvez répondre ou ne pas répondre, c'est pas une obligation. Donc c'est Jacques Fatt qui vous a prénommé Bettina.
Oui.
Alors, une question toute simple et toute bête. Quel est votre vrai nom ?
Simone. Simone. Et il m'a baptisée Bettina parce que quand je suis arrivée chez lui, il y avait dans la cabine une autre Simone. Et c'est là où il m'a dit, tu ne peux pas t'appeler Simone, il faut te changer de nom. Et en deux minutes, mais ça lui est passé comme ça, je ne sais pas, il y a des choses magiques dans la vie. Il a dit, tu as une tête à t'appeler Bettina. Et il m'a appelée Bettina, c'est resté comme ça toute la vie. Et je crois qu'il ne pouvait pas trouver un nom. C'est peut-être parce que j'y suis habituée maintenant, mais ça me va bien. C'est un nom qui me va bien, avec lequel je me sens bien.
Mémoire du siècle. Bettina, par Jane Gossett et Marie-Ange Garondeau. Prise de son, Frédéric Joly. Mixage, Jean-Paul Herbert.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 août 1991. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.